Aurélien Scholl, Le cadavre et les fleurs. Puvis de Chavannes, le maître impeccable, le Dante de la peinture, prépare dans un nuage son grand tableau du salon prochain. Une jeune femme pâle qui cueille des fleurs dans une prairie, tandis que deux hommes à figure d'argousin l'observent à distance. C'est tout un drame que ce tableau, et voici comment Puvis le raconte. La scène se passe en Autriche, et le point de départ est à peu près le même que celui du crime du Peck. Blanche Bernstein, mariée à un homme ombrageux et jaloux, a eu pour amant un officier de la garde, un de ces jeunes élégants, cavaliers, audacieux, danseurs indispensables, qui sont de toutes les fêtes et dont les hommages flattent toujours une femme. Elle s'est donnée à lui, elle l'aimait éperdument. Le mari a tout appris. Il se rend chez le frère de sa femme, lui met sous les yeux l'épreuve de son déshonneur. Le frère est atterré. Il occupe un rang important dans la société viennoise. Il est allié à une grande famille. Il a des enfants. Un scandale va s'abattre sur ses innocents. La faute de sa sœur, rendue publique, tout s'écroule autour de lui. Que faire ? Il n'y a pas à hésiter. Il faut que l'amant disparaisse. Le frère et le mari entrent soudainement dans la chambre de la jeune femme. Elle est seule et le lit. En voyant ces deux hommes dont les regards luisent et dont les traits sont contractés, elle se lève, frémissante. « Qu'y a-t-il ? » demande-t-elle. « Que voulez-vous ? » « Madame, dit le mari, vous avez un amant, Frédéric de Verghem. » Blanche retombe accablée sur son fauteuil. « Voici vos lettres, voici les siennes. Inutile de nier. »« Tu as déshonoré notre nom, » s'écrie le frère. « Et pour qui ? » reprend M. Bernstein avec un rire terrible. « Pour un homme qui se joue de vous, qui vous trompe. » « Frédéric, rugit la jeune femme, c'est impossible. Vous mentez, mais tuez-moi si vous voulez, mais ne me dites pas qu'il me trompe. » M. Bernstein eut alors un geste de triomphe. « Tu l'aimes donc bien ?» Elle, droite et fière, « Oui, je l'aime. » « Eh bien, sachez donc qu'il est l'amant de Georgina Besmeyer, la petite chanteuse du grand Theater, celle qui fait tendre la salle avec la chanson du colonel, la soupeuse habituelle de ces messieurs de l'Ardois Casano, la Lorette de Maximilian Strasse. Voilà la rivale que vous donnez, madame. Mais ce n'est pas vrai, vous mentez. Oh, j'ai apporté une correspondance qui ne peut pas vous laisser aucun doute. Tenez, vous pourrez voir. Il y a même des photographies. La jeune femme saisit fébrilement les papiers qu'on lui tendait. Elle put s'assurer que cet homme à qui elle avait tout sacrifié, qu'elle aimait d'un amour absolu, sans limite, cet homme la traitait comme une fille de hasard. Elle n'était pour lui qu'une bonne fortune, comme les autres. Ce fut un râle qui sortit de sa gorge. « Oh, misérable !» murmura-t-elle. Et de ses yeux jaillissait un brasier qui desséchait ses larmes, car elle ne pouvait pas même plus pleurer. Elle haletait le sang aux tempes, un fer rouge au cœur. Il y eut un moment de silence solennel. « Madame, reprit M. Bernstein, vous allez lui écrire. Vous lui demanderez rendez-vous pour demain soir à votre villa de Berchtold. 11 heures, nous serons là. Le lendemain, Frédéric était assassiné. Blanche tenait la lumière pendant que son frère et son mari criblaient de coups d'épée le jeune officier, surpris et sans défense. Il tomba, et avant de fermer les yeux pour la dernière fois, il se tourna vers sa maîtresse et murmura « Je te pardonne ». On fit disparaître le cadavre. Mais un passant avait vu de la lumière dans la villa. Deux voisins affirmaient avoir entendu des cris. On raconta qu'un jeune homme se rendait quelquefois la nuit dans la villa. La disparition d'un des plus brillants officiers de la cour, coïncidant avec le mouvement qu'on avait remarqué chez Madame Bernstein, éveilla des soupçons. Toute la police fut mise sur pied. On ne trouva rien. Cependant, M. et Mme Bernstein furent arrêtés. On avait des commencements de preuves, mais il fallait retrouver le cadavre. On fouilla vainement les caves, le jardin, et les accusés se renfermèrent dans un mutisme absolu. Le chef de la police, après avoir consulté un médecin, voulut tenter une expérience. La jeune femme fut mise à un régime atroce. On la purgeait tous les matins, on lui donnait à manger juste ce qu'il fallait pour qu'elle ne mourût pas. Au bout de quelques jours, elle était d'une faiblesse telle qu'elle pouvait à peine se lever. La nuit, elle avait le délire. Elle prononçait des mots entrecoupés, mais elle gardait son secret. Alors, un matin, le chef de la police entra dans sa prison. « Vous êtes si faible, lui dit-il, que le médecin a ordonné de vous faire prendre l'air. Voulez-vous sortir un peu ?»« Oh oui !» murmura Blanche. « Eh bien, nous allons vous conduire à la campagne. Nous vous suivrons de loin pour ne pas réveiller les sous-attentions. Vous serez comme libre pendant 1 heure. » On la fit monter en voiture et on la conduisit aux environs de la villa Berchtold. C'était à la fin du mois de mai. Les arbres étaient en fleurs. De tous côtés, les marguerites, les coquelicots, les boutons d'or jaillissaient de l'herbe vivace. Blanche respira avec délice et doucement, sans avoir conscience de la situation, elle se mit à marcher. Puis elle se baissa et cueillit une fleur, une autre fleur un peu plus loin. Elle allait, muette, absorbée, contemplative. Et au bout d'une demi-heure, elle avait à la main un gros bouquet de fleurs des champs. Les agents étaient loin, cachés derrière un arbre. Blanche continuait sa marche machinalement. Puis, arrivée à un certain endroit, elle jeta son bouquet et fondit en larmes. Les agents accoururent avec des pioches. Ils creusèrent le sol et mirent au jour le cadavre de l'officier, qui apparut horrible, décomposé, avec des trous noirs dans la figure et dans la poitrine. C'était bien là !